Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a rappelé dans la dernière émission l'idée que si on forme une unité, en étant un seul corps uni au Christ, cela n'abolissait pas la diversité des membres, ou leur... du moins leur différence, c'est qu'on a chacun donc des fonctions, des charismes dans l'Église, et que s'il y a bien un seul esprit, il y a aussi différentes missions qui sont proposées à chacun. Mais un peu plus loin, au numéro 791, il est dit « L'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines », et on cite ensuite l'Épître aux Galates au chapitre 3. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors on comprend qu'il n'y ait plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, mais la différence homme-femme est peut-être un peu plus surprenante. Tu pourrais expliquer ce que veut dire qu'il n'y a plus dans le Christ ni homme ni femme.
Alors, il est clair que quand saint Paul utilise ces trois comparaisons, c'est pour dire que l'unité est plus forte que ces différences, car à son époque, eh bien, il y avait bien sûr une différence entre le grec et l'esclave, puisque l'esclavage n'était pas encore supprimé, lui-même d'ailleurs n'est pas... à se battre pour la suppression de l'esclavage. Il demande aux esclaves d'être bien soumis à leur maître, mais comme s'ils se soumettaient au Christ. Donc il ne fait pas la révolution, je dirais, de doctrine sociale, même si l'Église tendra de plus en plus à faire en sorte qu'il n'y ait plus cette distinction entre homme libre et esclave. C'est clair qu'il faut arriver à dépasser ce clivage humain qui existait de par le droit antique du vainqueur par rapport au vaincu. Le vainqueur pouvait imposer au vaincu l'esclavage. Et Aristote, par exemple, le défend comme étant un droit naturel. Et petit à petit, il va y avoir une évolution, je dirais, positive, un approfondissement des relations humaines qui vont faire comprendre que l'esclavage est un mal et qu'il s'agit de l'éradiquer d'une manière totale. Par la différence entre juifs et grecs, elle continue. Et si je rencontre quelqu'un de la communauté juive, il dira ben, « moi, je ne suis pas un non-juif, je suis un juif ». Donc cette différence continue de par la circoncision, de par l'appartenance au peuple juif. La naissance de nos jours d'une mère juive fait qu'on continue à être juif. Donc la distinction continue entre juif et non-juif, ou entre juif et grec, pour reprendre l'expression de saint Paul. Puisque à son époque, qu'est-ce qu'on rencontrait en dehors des juifs? On rencontrait les grecs. Mais dans le mot grec, bien sûr, il y a tous les non-juifs qu'il faut inclure. Et pareil pour la distinction de genre entre l'homme et la femme, eh bien, saint Paul ne veut pas les gommer, les éradiquer. Il veut dire que notre unité est plus grande que cette distinction. Et c'est ça qu'il faut le comprendre. D'ailleurs, Jésus apparaît comme l'époux en face de l'épouse qu'est l'Église. Donc cette distinction n'est pas du tout éradiquée, mais elle est dépassée par cette union qui est plus radicale encore que ces distinctions qui existent dans la société, qui font que on est homme biologiquement ou on est femme biologiquement, et que ces distinctions ne suffisent pas à créer une séparation qui conduirait au fait qu'on appartiendrait moins au corps du Christ ou plus au corps du Christ selon l'état dans lequel on arrive dans ce corps du Christ par le baptême. Certes, on conserve son état, je dirais, d'origine, on ne le nie pas, mais il est dépassé. C'est de l'ordre du dépassement. Et nous savons très bien que le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament se passe justement par, à la fois par continuité, il y a une véritable continuité dans les distinctions, mais il y a aussi, je dirais, détachement de cette, d'éléments de cette continuité dans ce qui a été institué avant, les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Il y a détachement des sacrifices de l'Ancienne Alliance, il y a détachement de la circoncision physique. On arrive à une circoncision spirituelle par le baptême, et saint Paul le dit très nettement que dans le Christ, nous sommes circoncis, circoncis spirituellement. Il y a vraiment une circoncision qui nous fait appartenir à lui, mais dans un détachement et surtout dans un dépassement, c'est-à-dire de par le fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, ben, il y a quelque chose d'infini qui nous relie désormais à Dieu à travers cette circoncision spirituelle, puisque Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et nous avons la même chose pour toutes ces distinctions que saint Paul a bien énumérées de son temps, le juif et le non-juif, l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme doivent hisser leur regard vers plus haut, notre vie est dans les cieux, dit saint Paul. Et cette considération nous aide à voir que ces différences sont secondaires par rapport à cette unité. C'est ça, c'est la notion de hiérarchiser les choses pour comprendre que ben, nous sommes davantage un que distinct dans ces distinctions qui deviennent subalternées à l'unité avec le Christ. C'est plus important.
On a une belle illustration dans l'ordre de ça, c'est avec saint Martin de Porres qui était fils d'une esclave au XVIe siècle.
Oui, qui est un dominicain de l'autre monde.
De l'autre monde, oui, et qui n'aurait pas pu avoir d'une manière naturelle une place particulière dans la société, mais en rentrant dans l'ordre, s'est retrouvé avoir une vie spirituelle incroyable et aujourd'hui canonisé, saint, adulé de tous, très aimé, et alors que voilà, comme fils d'esclave, il aurait pu ne jamais avoir une place particulière dans la société. Mais dans le cadre de l'ordre, a trouvé cette... les frères ont su lui confier des belles choses, et par sa vie de charité, a su...
Oui, l'Église est un lieu, dans le fond, de dépassement des réalités temporelles, et on le voit bien dans une assemblée dominicale où tous les laïcs sont invités. Eh bien, il y a aussi bien le préfet que le directeur d'usine, que l'ouvrier OS non spécialisé. Tout le monde est là côte à côte et participe au même corps du Christ. Nous devenons concorporels au Christ par la communion eucharistique. Saint Paul dira, nous sommes sum futoi, c'est-à-dire nous devenons une même nature. C'est incroyable d'avoir dit ça. Nous devenons, mais bien sûr c'est une nature surnaturelle, il ne faut pas serrer la comparaison, mais nous sommes unis les uns aux autres d'une manière totalement inhabituelle par rapport au consensus culturel de chaque époque, où il y a inévitablement des hiérarchies, des classes, des différences, et cela est nécessaire même pour la croissance de la société, puisque nous utilisons entre nous la justice distributive, et nous comprenons très bien qu'il est normal qu'un chirurgien gagne plus que quelqu'un qui fait le ménage, hein, puisqu'il a une spécialisation qui lui donne une aptitude qui est reconnue par la société comme bénéfique pour l'ensemble du corps de la société. Donc il y a des justices distributives sans cesse qui sont à l'œuvre, mais dans le corps du Christ, tout cela est dépassable et dépassé pour de bon à travers cette union au corps du Christ.
Et l'expression qui permet de manifester ça dans notre vie chrétienne, c'est le terme de frère. On est invité à s'appeler frères les uns les autres.
Oui, nous, de fait, Jésus a utilisé cette expression de Adelphoi, les frères, les sœurs, Adelphé, pour la sœur, montre bien que notre vie qui nous unit dans le Christ est quelque chose qui surpasse bien tous les liens temporels qu'une société peut avoir et qui se transforme dans le temps. Nous sommes toujours frères et sœurs à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des sociétés modernes. Nous restons frères et sœurs et nous sommes toujours au-dessus de ces liens que sans cesse la société invente pour s'organiser, se définir, s'entretenir. Ces liens sont nécessaires, hein, pour engendrer, il faut bien un homme et une femme. On ne va pas supprimer par des idéologies du gender ces réalités si basiques. Et nous sommes ce que nous sommes, c'est nécessaire. Et la société vit par ces liens, mais notre lien au Christ est toujours plus fort que tout, et nous sommes un dans le Christ.
On peut avancer avec le numéro 792, on l'abordera d'une manière plus approfondie dans la prochaine émission, mais c'est une fois qu'on a compris qu'on faisait un seul corps, le numéro 792 nous rappelle que le Christ est la tête de ce corps. C'est une citation de Colossiens. Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est tête?
Alors, comme tu dis, on le développera la prochaine fois, mais on peut déjà dire avec saint Jean Chrysostome que l'Église est le plérôme du Christ. En effet, le corps complète la tête, et Jésus a voulu ainsi, avec toute l'humilité de son humanité, Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur », d'une s'agréger en quelque sorte ce corps de pécheur qu'il transforme en saint, et faire que la tête complète le corps, et faire ainsi ce plérôme admirable que nous sommes, tête et corps, avec le Christ qui est notre tête.
Bon, vivement la prochaine émission.